Versa Gétorix par Funk Brentano. Le Gaulois, l'Arverne, Auvergnat, Vercingétorix est une des plus rayonnantes personnalités de notre histoire. On lui a comparé Jeanne d'Arc. Il semble fait pour se donner la main. À l'époque où ces deux incomparables héros ont déployé leur activité glorieuse dans leur amour de la patrie, ils avaient le même âge, l'un et l'autre 18-19 ans. Vercingétorix appartenait à une famille de haute aristocratie, fils de Celtil qui avait été brûlé vif par les Romains. Il fut proclamé roi en janvier 52 avant Jésus-Christ en une assemblée nationale présidée par le druide des druides, autorité suprême de ce qu'on peut nommer le clergé gaulois. Grand, élancé, le jeune homme est d'une beauté impressionnante. Le visage paraît toute lumière. De longs cheveux d'un blond ardent, une chevelure de lion, des yeux d'un bleu profond où se prononce la volonté. Les cheveux se répandent sur le col comme au vent du combat. Le contemporain Florus note sa prestance superbe, sa haute taille, son regard impérieux et droit. Il était ferme, mais bon et bienveillant de caractère. D'autres contemporains vantent son désintéressement, auquel Jules César lui-même doit rendre hommage, la pureté de ses mœurs. Ils insistent sur son éloquence qui communiquait aux foules qui l'écoutaient l'ardeur qu'il animait lui-même pour le bien de la patrie. En face de lui, plaçons immédiatement le proconsul romain Jules César, qui sera son cruel et méchant adversaire. Jules César est déjà loin de ses 18 ans. Quinquagénaire chauve, aux yeux d'aigle rapace, écrit le Dante. Ce crâne chauve est rarement coiffé, et quand il l'est, c'est d'une couronne d'or. De sa personne, pour reprendre le mot de Montaigne, se dégageait l'odeur de sa pestilente ambition. Pour un observateur superficiel, écrit Jacques Madol, César, en 58, lorsqu'il assuma le double commandement de la Cisalpine et de la Narbonnaise, province de la Gaule, n'est qu'un politicien vieilli dans d'obscures et sordides intrigues. Observateur superficiel, nombre desquels, je n'hésite pas à me ranger. Le futur conquérant de la Gaule avait un caractère sadique. Pour parvenir au pouvoir suprême qu'il ambitionnait, il ne reculait devant aucun moyen. Le principal était de flatter, on peut dire d'acheter, la plèbe romaine. Pour elle, il organisait de grandes fêtes populacières. Pour l'amuser, il faisait combattre, s'entretuer, 640 gladiateurs. Cicéron dit de lui, « Pour tenir sous le joug l'armée et le peuple, il lui fallait des masses d'or, une immense richesse, et quelles que fussent les voies à suivre pour l'acquérir. » Sa campagne de Gaule, qui bouleversa les destinées de notre patrie, fut pour lui très exactement, précisément, une campagne électorale, un moyen de se procurer l'argent nécessaire à son accession au pouvoir suprême. Aussi, par ses soins, le pillage du pays envahi s'opéra-t-il avec une âpreté féroce. Il pillait avec un soin particulier les lieux où la dévotion celtique avait réuni des trésors en hommage aux objets de son culte. Avant son départ pour la Gaule, César était accablé de dettes. Elle s'élevait à 1300 talents représentant plus de 6 millions de nos francs or. Au retour de sa campagne, non seulement il se libéra des dettes en question, mais put verser en outre dans ses caisses particulières, dans son trésor, une somme dépassant 116 millions de nos francs or, après avoir remis à un nommé Curion, sans parler encore d'autres personnages, 18 millions de francs or afin de s'assurer leur collaboration à ses ambitieux desseins. Il lui était arrivé en Gaule, quand une cité lui offrait de lui ouvrir spontanément ses portes, de refuser l'accord pacifique afin de pouvoir, à la tête de ses troupes, prendre la ville d'assaut par violence et se livrer ensuite à un pillage fructueux. César laissa à des financiers italiens l'exploitation foncière de plus d'une ville gauloise et offrit des esclaves par milliers à tous les grands de l'Empire. Cette guerre des Gaules fut une chasse aux esclaves, la plus active razzia de ce genre, qui était vue dans tout le cours de l'histoire romaine. Avec l'argent de la Gaule, note Ferrero, César s'était créé un cortège de secrétaires, d'architectes, etc. Il était devenu un des plus grands propriétaires d'esclaves d'Italie. Il avait des écoles de gladiateurs à Capoue. Considérons en regard le désintéressement de Vercingétorix, sa modestie, son manque absolu d'ambition personnelle. Il n'avait qu'une pensée directrice, un rêve, une ambition, la liberté, l'affranchissement de sa patrie. et il est remarquable que ce jeune et ardent général en chef, sur ses 20 ans, ait été d'une prudence parfaite dans sa tactique militaire. « Je ne dois pas combattre en bataille rangée, » disait-il. Il avait compris que contre une armée régulière, sous les ordres du plus habile chef de guerre qui peut-être ait jamais paru, il ne pouvait lutter en champ ouvert, avec ses troupes à lui, de caractère féodal, qui ne se pliaient pas à des manœuvres d'ensemble sous la direction d'un chef. Vercingétorix avait compris qu'il ne pouvait qu'affaiblir et embarrasser le mouvement de l'ennemi par de menues surprises et attaques, une manière de guérilla, arrêtant pour s'en emparer vivres et munitions en chemin vers les camps adverses. Cependant, à Gergovie, dans le Puy-de-Dôme, il remporta, sur son illustre adversaire, une victoire absolue et que celui-ci ne lui pardonna pas. On aime à se représenter le jeune capitaine à la tête de ses hommes. De ces derniers, les frères Marius Harry Leblond, en leur admirable biographie du jeune héros, en ont donné le tableau. La crinière tressée des chevaux est rouge. La chevelure bouclée et poudrée d'or des hommes est rouge, eux-mêmes tout en rouge, pour se donner, affirment les auteurs anciens, un air plus terrible à la guerre. Les Romains disaient « les Gaulois aux cheveux couleur de sang ». Malheureusement, les Celtes, dans leur résistance à l'ennemi, étaient divisés. Plusieurs des peuplades de la Gaule et des plus importantes, les Éduins, les Rémois, non seulement ne luttaient pas aux côtés de Vercingétorix, mais donnaient assistance aux Romains. Et puis, avec l'argent ramassé, pillé, César avait embauché de nombreux combattants germains montés sur leur lourde, massive et puissante cavalerie. Ainsi César, après sa défaite de Gergovie, était parvenu à enfermer Vercingétorix et le meilleur de ses troupes à la cime d'Alésia, à l'île Sainte-Reine dans la Côte d'Or. Il les avait encerclés de fossés profonds remplis d'eau, encore renforcés d'une muraille circulaire élevée de plusieurs mètres. Les assiégés ne tardèrent pas à souffrir cruellement de la disette. On sait avec quelle générosité Vercingétorix se livra spontanément entre les mains de son implacable ennemi pour affranchir d'une mort cruelle ses collaborateurs. On sait avec quelle imposante simplicité et tranquillité le jeune roi gaulois vint déposer ses armes aux pieds du proconsul romain. En réponse, celui-ci le fit enchaîner, transporter à Rome, où il le fit jeter au fond d'un sombre cachot. À la noblesse de sentiment, au désintéressement de Vercingétorix, César lui-même, malgré la haine qu'il lui avait vouée, ne peut s'empêcher de rendre hommage en ses commentaires de la guerre des Gaules. La prison où le jeune héros fut enfermé est précisément décrite par Salluste. En descendant, on entre dans un souterrain large d'environ 12 pieds, entouré de murs épais, voûtés d'arcades de pierres massives. Ce cachot, nu, ténébreux, fétide, saisit d'épouvante. C'est là que Vercingétorix fut enfermé et gardé, avec pour nourriture du pain et de l'eau, l'espace de 6 ans. 6 ans, jusqu'au jour où il plut à Jules César de venir au Capitole de Rome célébrer son triomphe. Un long et fastueux cortège de héros portant la dépouille des Gaulois vincus, les trophées de la victoire, l'or des temples. Suivaient les enfants captifs, puis les femmes destinées à l'esclavage, les otages, au dernier rang, Vercingétorix. Hélas, ceux qui l'avaient pu admirer en la beauté de sa jeunesse ne l'auraient pas reconnu. 6 ans de captivité en un antre fétide et ténébreux. Il a l'air d'un vieillard, et le jeune héros n'a pas 30 ans. Il est décharné, ridé, mais conserve en l'expression de son visage et en son allure la physionomie chevaleresque qu'un martyr de 6 années n'a pu effacer. Il était précédé d'une pancarte où il était par dérision nommé le roi des Gaules. Après qu'eut été célébré au Capitole le triomphe du vainqueur, le noble roi des Gaules fut ramené à son cachot où le jour même il fut misérablement étranglé. S'il suffisait d'une vague d'équitable indignation pour submerger le renom d'un personnage illustre, la mémoire de César verrait sa gloire pourrir sous le dégoût. Il est vrai qu'il parvint à ce pouvoir suprême qu'il avait ambitionné, mais la laideur de ses forfaits en vint le faire vomir par ses plus doués partisans jusqu'à son fils Brutus. Tu quoque Brutus, et toi aussi Brutus, au nombre de mes assassins. Et dire que nous avons à Paris, dans le 12e arrondissement, une rue qui, en hommage à ce bandit, se déshonore en portant son nom. C'était Vercingétorix par Funk Brentano.